Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une des associations qui demandent le gel des loyers en France et le ministère de l'Économie qui ne ferme pas la porte à cette proposition qui a des avantages et des inconvénients. Les informations de Maud Descamps avec nous dans un instant. Elisabeth Borne, pour la première fois sur le terrain en tant que première ministre, elle va cet après-midi au Murau et c'est Jacques Serret qui la suit. Des familles qui portent plainte contre Kinder et Buitoni, Yasmina Katou a interrogé une responsable de l'association Foodwatch. Elle nous dira ses motivations. Soyez bien là, si vous le pouvez, bien sûr, aux alentours de midi 20. On sera avec Caroline Mangez, journaliste à Paris Match, qui fait des révélations sur ce drame qui nous a tous attristés, la mort du jeune chef de 24 ans, Antoine Alénaud, fauché par un délinquant de la route notamment, multicondamné et jamais incarcéré. Le gel des loyers, les difficultés de certaines entreprises à embaucher, on va en débattre avec vous au 39-21 et avec vous, Bastien Lachaud, bonjour.
Bonjour.
Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, qui va nous rejoindre dans un instant.
Europe 1.
Ces dépenses du quotidien qui pèsent de plus en plus lourd dans les budgets. Il y a les produits alimentaires, il y a le carburant, il y a l'électricité et il y a également les loyers. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Service économie d'Europe 1, bien sûr. Si les locataires payent plus cher, c'est que les prix des loyers dépendent en réalité de l'inflation. Et certaines associations demandent au ministère de l'économie de geler ces loyers. Bercy, vous nous dites, Maud, ne ferme pas la porte à cette proposition.
Hein. Oui, en effet, le ministère de l'économie m'a indiqué être ouvert à toutes les propositions qui permettront de préserver le pouvoir d'achat des Français. La demande de gel des loyers va donc être expertisée, m'a-t-on dit. Cela ne veut pas dire qu'elle sera validée. Pour les associations de consommateurs, il est nécessaire de revoir le système d'indexation des loyers sur l'inflation, comme le détaille François Rodriguez de la CLCV.
Là, on a une hausse de 2,48%, donc quelque chose qui n'avait jamais été constaté depuis 2009. Donc de fait, oui, nous demandons à ce qu'il y ait d'une part un gel des loyers et qu'il y ait en parallèle une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette révision des loyers et réfléchir sur la nécessité de concevoir un nouvel indice, ne plus forcément se caler sur la hausse des prix, ou peut-être tout simplement caper cette hausse, mais en tout cas, il faut réfléchir à la situation actuelle et éventuellement à modifier l'indice de révision.
Voilà, mais cette idée est loin de faire l'unanimité, notamment chez les petits propriétaires qui comptent souvent sur le loyer de leurs locataires pour compléter leurs revenus ou leur retraite. Les bailleurs sociaux sont également vent debout. Un gel des loyers n'est acceptable que si et seulement si l'État compense le manque à gagner, estime-t-il.
Maud Descamps, merci beaucoup Maud. Un coup dur pour l'emploi dans le Nord, l'entreprise Vallourec annonce la fermeture de son site de Saint-Saulve et de nombreuses suppressions de postes dans deux autres usines du même département. Au total, 320 salariés sont concernés en France. Parmi eux, Frédéric, entré chez Vallourec il y a 20 ans. Écoutez.
On s'y attendait, mais c'est le coup de massue, quoi. C'est compliqué à gérer, quoi. C'est 320 familles, plus à côté, des prestataires sur le côté qui sont impactés aussi, donc ça a de lourdes conséquences pour tout le monde, quoi. Ils veulent plus de Vallourec en Europe, quoi, clairement. À terme, ça va être ça, on en est convaincus. Hein. Moi, je pense vraiment que parce qu'on coûte trop cher, enfin, à leur dire.
Qu'est-ce qui compte maintenant ?
Bah, partir avec un plan, avec ce qu'on mérite. Avec le nombre d'années qu'on a passé ici. Et puis, derrière, retrouver du travail rapidement, quoi. Le chômage, c'est pas une option pour nous.
Frédéric, salarié de Vallourec, au micro européen de Lionel Gougelot. 320 suppressions de postes, donc en France, 3000 dans le monde. Vallourec, qui fabrique des tubes sans soudure, bouleverse complètement ses activités en Europe. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise.
Bonjour Romain.
Le groupe français Vallourec a donc clairement l'intention d'investir désormais hors du continent européen.
Absolument. Au Brésil, notamment, déjà à l'automne dernier, après un long processus de restructuration financière, Vallourec avait annoncé la mise en vente de ses activités allemandes, ainsi que l'arrêt de la fabrication en Europe de ses tubes pour l'industrie. L'entreprise prévoyait le transfert d'une partie de ses activités au Brésil. Alors concrètement, aujourd'hui, Vallourec, qui a inventé les tubes sans soudure, a été rattrapé par la concurrence venue notamment des pays de l'Est et par le fait aussi qu'aujourd'hui, on cherche moins de pétrole. Résultat, le groupe va là où le marché a des besoins et tente de se transformer. Son directeur général, Philippe Guillemot, parle d'une étape nécessaire, pour ne pas dire vitale, avec l'ambition de se positionner sur le stockage de l'hydrogène, par exemple, pour devenir un acteur clé de la transition énergétique. Une décision qui vient tout de même entacher la politique de réindustrialisation de la France.
Élise Dangean, merci beaucoup Élise. Le dossier Vallourec, qui est le premier dossier social chaud pour la nouvelle première ministre. Et alors qu'elle réfléchit à la composition de son premier gouvernement, Elisabeth Borne se rend sur le terrain. Aujourd'hui, elle sera cet après-midi au Mureau dans les Yvelines. Un premier déplacement en tant que première ministre qui fait écho, Jacques Serret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Un déplacement qui fait écho à son discours d'investiture. Hein.
Oui, lors de la passation des pouvoirs avec Jean Castex, lundi soir, Elisabeth Borne avait dédié sa nomination à toutes les petites filles. Rien ne doit cesser de faire cesser le combat pour la place des femmes dans notre société, avait-elle ajouté. Trois jours plus tard, pour son premier déplacement, elle a donc choisi de se rendre ici au Mureau, à 50 km de Paris, visiter le pôle Molière, un lieu qui accueille une crèche, une école maternelle et une école primaire. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, la nouvelle première ministre a prévu d'y rencontrer des représentants d'associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Elisabeth Borne échangera également avec des jeunes filles, des jeunes femmes aidées par ces associations qui œuvrent à leur émancipation et à leur insertion sur le marché du travail. Le premier déplacement d'un nouveau locataire de Matignon n'est jamais anodin. Aujourd'hui, l'intention d'Elisabeth Borne est claire, marquer le début de son mandat par la défense de la cause des femmes, tout en adressant un message aux électeurs des banlieues. Ici, au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait recueilli 60% des voix au premier tour. Il s'agit d'aller les reconquérir à 3 semaines des législatives. Sur ce point, Elisabeth Borne suit les pas d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, le président réélu avait effectué son premier déplacement post-élection à Cergy, dans le Val d'Oise. C'était là aussi une terre mélenchoniste.
Merci beaucoup, Jacques Serret, en direct des Mureaux. Plusieurs syndicats appellent à la grève le 2 juin prochain au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, un événement rarissime dans la diplomatie française pour exprimer cette grève, le malaise des agents du Quai d'Orsay face, je cite, à une avalanche de réformes, particulièrement la réforme mettant fin au corps diplomatique français. La dernière grève, qui était d'ailleurs la première de l'histoire du Quai d'Orsay, remonte à 2003. Il est midi 7, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, le scandale Kinder et Buitoni avec des plaintes qui vont être déposé cet après-midi. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est midi 9. Scandale Kinder et Buitoni. Deux plaintes seront déposées cet après-midi au parquet de Paris par l'association Foodwatch. La plainte concernant le groupe Ferrero est déposée avec deux familles dont les deux fillettes ont été intoxiquées à la salmonelle. La seconde plainte vise le groupe Nestlé et ses pizzas surgelées contaminées à la bactérie Escherichia coli. Selon un dernier bilan, il y a eu 266 cas de salmonellose en Europe au total. Karine Jacquemart est directrice générale chez Foodwatch. Elle dénonce l'impunité des grands groupes et veut que les entreprises soient condamnées.
Nous portons plainte pour envoyer un message extrêmement fort qui est que ça suffit, ces scandales alimentaires à répétition. Ces entreprises ont des obligations et on espère également des sanctions dissuasives pour qu'il n'y ait plus ce type de scandale. Les deux plaintes listent plusieurs infractions. Ça va de la tromperie jusqu'à la mise en danger de la vie d'autrui, par exemple. Dans le scandale Kinder, dans les deux cas, ce sont des enfants qui ont été concernés. Donc il y a une petite fille de 8 ans et puis une autre petite fille de 6 ans, par exemple. Et cette petite fille de 6 ans, elle a eu une myocardite. C'est des choses qui sont assez graves et forcément qui ont extrêmement angoissé les parents. Et d'ailleurs, des familles de victimes peuvent nous contacter si elles souhaitent s'associer à ces plaintes, même après aujourd'hui.
Karine Jacquemart de Foodwatch, interrogée par Yasmina Katou. Vous l'avez sûrement remarqué, il fait un peu moins chaud dans le pays aujourd'hui. Peut-être un soulagement pour vous, mais aussi bien sûr pour les agriculteurs. La vague de chaleur de ces derniers jours a endommagé de nombreuses cultures, notamment la culture des fraises. Plus il fait chaud, plus elles mûrissent vite. Et simultanément, résultat, il y a trop de fruits qui arrivent en même temps sur les marchés. Et les producteurs sont parfois contraints de les laisser pourrir ces fraises, de les laisser pourrir sur pied. Écoutez ce reportage à Castelsarrasin de notre correspondant Benjamin Péter.
Moi, j'ai jamais vu ça. Depuis 91 que je fais de la fraise, c'est la première année où ça nous arrive une chose pareille.
Maurice Andral est dépité. Ces 3 hectares de fraises sont pensés pour être récoltés progressivement dans la saison. Mais cette année, tout est déjà mûr.
Il a été ciblé là, vous voyez, qui normalement devrait être comme ça au 10 juin. Regardez comme c'est rouge déjà. On a un gros afflux de fraises qui arrivent là, dû à ces grosses canicules. Il y a une surproduction, tout mûrit en même temps. Un consommateur, il mange une barquette de fraises, mais il ne mange pas trop.
Conséquence, les prix d'achat au producteur s'effondrent. Il vend à perte, alors la mort dans l'âme, il a décidé de ne pas ramasser. D'autant plus rageant que début avril, il avait perdu la moitié de sa production de prunes à cause des gelées.
Je commence quand même à baisser un peu les bras. Deux années de gel en prunes, je disais avec la fraise, bon, on va peut-être rééquilibrer. Et c'est le contraire, sur une parcelle comme ça, vous voyez, il y a 100 000 euros d'investissement. Je pense qu'à la fin de la saison, il va me manquer 50 000 euros. En plus des 800 tonnes de prunes que j'ai perdues.
Et ce qu'il voudrait, c'est que les distributeurs jouent le jeu en faisant baisser les prix des fraises françaises pour les consommateurs, pour inciter à acheter français, alors qu'on trouve encore des fruits venus d'Espagne à des prix défiant toute concurrence. À Castelsarrasin, Benjamin Péter, Europe 1.
Journée spéciale sur Europe 1 avec notre partenaire Le Pèlerin. Dans tous les journaux, aujourd'hui, on vous parle de nos forêts. Elles recouvrent un tiers du territoire français et elles sont menacées, notamment par un phénomène que l'on appelle les coupes rases. En clair, certains propriétaires de forêts décident de supprimer une parcelle d'arbres pour la remplacer par un seul et même type d'arbre. Ça permet un plus grand rendement, mais ça se fait, vous allez comprendre, au détriment de la biodiversité. Illustration près du Mans avec ce reportage de Mathieu Limongi.
Une départementale en plein milieu de la Sarthe, autour une forêt verdoyante qui masque le soleil. Mais quelques kilomètres plus loin, les arbres ont laissé place à un paysage désertique.
Et ça n'a pas repoussé depuis. Le sol est jauni. On va tourner, on va aller voir.
Sylvain Agerand est ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour Canopée, une association qui milite pour une sylviculture plus durable.
Alors ici, on est vraiment sur une situation qui est très pédagogique. On est dans une forêt d'un des principaux représentants de la filière bois. Tout a été rasé. Il n'y a plus un seul arbre sur plusieurs dizaines d'hectares. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les souches des arbres ont été déracinées. Tout l'écosystème est cassé.
L'arbre le plus souvent replanté, c'est le Douglas, un résineux qui pousse vite, facile à travailler et donc très prisé des industriels.
Quand vous remplacez une forêt diversifiée par une monoculture de Douglas, vous aggravez le changement climatique. Quand vous rasez une forêt, vous libérez d'un seul coup tout le carbone qui était stocké dans les arbres et dans le sol. Et le pari qui est fait, c'est de dire, c'est pas grave, on va replanter, les arbres vont repousser. Sauf que le deuxième problème, c'est que ces jeunes arbres, ils sont mis en plein cagnard et bien souvent, ils meurent.
Et quand ces arbres meurent, certaines parcelles devenues non rentables sont même parfois abandonnées par leurs propriétaires.
Voilà, le phénomène des coupes rases. Journée spéciale donc sur Europe 1 avec notre partenaire Le Pèlerin. La météo tout de suite avec vous Anissa Haddadi, avec de nouveaux orages cet après-midi.
Oui, alors on en a déjà eu ce matin, des orages du côté du nord-ouest. Eh bien, ils arrivent effectivement dans l'est cet après-midi sur le grand quart nord-est. Donc sur les Ardennes, la Champagne, le bassin parisien, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et même le nord des Alpes. Dans toutes ces régions, vous allez entendre le tonnerre gronder. Des orages qui peuvent être localement assez violents avec de la grêle et des rafales de vent. À l'ouest, la bonne nouvelle, c'est qu'après le passage des orages, c'est le retour du soleil cet après-midi. Un soleil de temps en temps masqué par les nuages. Et puis dans le sud, c'est le beau temps qui se maintient avec un soleil radieux. Alors côté température, eh bien il y a une différence entre le nord et le sud. On a 18 degrés à Cherbourg, 19 à Saint-Brieuc cet après-midi, 24 pour Rennes et Lille, 26 à Paris. Dans le sud, la chaleur, 28 à Bordeaux, 30 à Saint-Étienne et 32 pour Lyon et Clermont-Ferrand.
Merci Anissa. Il est 12h14. Restez bien avec nous dans Europe Midi. Gros programme. On va débattre dans un instant du gel des loyers. Tiens, des associations demandent que les loyers soient gelés en France. On va en débattre avec Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis, on sera dans quelques instants avec vous, Caroline Mangès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Paris Match. Vous signez un grand article, une grande enquête sur un drame qui nous a tous attristés, la mort du jeune chef de 24 ans, Antoine Aleno. À tout de suite.